Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Utah Diapéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 69e Instant Sport, chiffre fétiche à Laurent. Salut Laurent.
Salut, bonjour tout le monde.
Pas beaucoup de matchs à la maison ce week-end, qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté au chaud?
Voilà, exactement, comme tout le monde, il y aura un petit peu le foot, le hand, il y avait de quoi faire à la télé, et bien sûr le basket aussi.
On va en parler du basket en fin d'émission avec un chouchou de Patrick qui a encore brillé. Alors un match toutefois monte ce week-end, c'était en volée avec la pré-nationale qui jouait au Piancourt contre Clermont-Lérault. Un gros match qui a vu la victoire des Mandois et qui du coup, avec deux matchs en retard, passe de la dernière place à la septième. Notre invité aujourd'hui, Antoine Couturier, le coach de cette équipe. Salut.
Bonjour.
Alors merci de répondre au pied levé à notre invitation un peu au dernier moment ce matin.
J'ai encore la marque de l'oreiller sur la
c'est
joue.
Ça. Une belle victoire contre Clermont-Lérault qui était cinquième et qui venait de gagner le leader la semaine dernière.
Tout à fait, un match disputé qui apporte des points qui nous serviront pour la suite du championnat.
Alors on va revenir dessus en fin de première partie d'émission. On va continuer ce tour de table avec Aurélien qui est là. Salut Aurélien.
Bonjour à tous.
Alors tu as joué ce week-end?
Non, j'ai pas joué, non.
D'accord.
Mon équipe a joué, mais moi j'étais pas dans le groupe.
Ah, parce que c'était une petite équipe en face, ils avaient pas besoin de toi.
C'est ça, ils ont gagné de 40 points, 38 points je crois.
Voilà.
Contre Alès. Toi, à Alès.
Ils te prennent pour les chocs.
Voilà. Un loser.
C'est ça, les week-ends se suivent et se ressemblent, encore un très beau match hier, il y a encore une défaite de l'OM, salut Patrick.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Beau match.
Ouais, très beau match. Hein? Non mais pour ce, là, il faut quand même dire que la semaine dernière, on s'était plein de cet arbitrage, c'est vrai, assez défavorable, mais là, bon, un bel arbitrage, n'a rien à dire, il y a toujours une défense au top de Marseille, on peut en parler aussi, si tu veux, à la fin de l'émission.
Oh, avec plaisir.
Sans problème. Il y avait du badminton à Mende ce week-end,
oui.
Patrick.
Ah,
non, il y avait un tournoi vétéran, mais comme je ne suis pas encore vétéran.
Oh,
donc,
oh. Ah, il y a une magouille là.
J'étais pas autorisé à le disputer. Non, c'est vrai que j'aurais pu le faire, mais bon, en fait, j'étais dans le sud, donc.
Il est junior.
J'ai passé mon tour. Et pour la petite histoire, je suis vétéran 3, donc j'avais largement le droit de participer à ce tournoi.
Salut Julien, très présent ce week-end, comme tous les week-ends d'ailleurs, sur ta page Sportmonde.
Ouais, bonjour, bonjour à tous. Oui, un petit peu d'actualité, même si malheureusement il n'y avait pas de foot et.
Si. Deuxième loser.
Deuxième loser.
Parce que comme mon camarade de table, mon équipe a joué, mais j'étais pas dans le groupe.
Ah, et ouais, c'est pareil, on te garde pour les chocs,
voilà,
toi.
Exactement.
Hein, c'est ça. Alors, c'était un peu la journée des premières ce week-end. Premier match annulé pour l'FL à cause du temps. Première victoire sans perdre de 7 pour l'équipe élite du MVL. Première victoire à l'extérieur pour le RCML. Donc, on va revenir dessus dans cette émission. Et premier point dans notre concours pronostique pour l'un de nos chroniqueurs. Donc, ce n'est pas Patrick qui a déjà 3 points. Ce n'est pas moi qui suis un point. Alors, grosse question, quiz, qui de Laurent ou Aurélien qui galère maintenant depuis 5 mois? Ou est-ce Julien qui aurait marqué un point pour son premier pronostic? Un peu compliqué. Allez, la réponse tout de suite, on écoute. Et justement, on va pronostiquer milieu de classement, Lyon-Marseille dimanche prochain. On va te laisser parler en dernier, Patrick, comme tu es le champion, tu as cet honneur-là.
D'accord.
Lyon-Marseille, moi je dis 2-1 pour Lyon. Laurent?
Ben je dis 2-0 pour Lyon, avec deux pénalties de la Casette.
Oh, est-ce que tu refais, Marc? Non, il ne peut pas arbitrer Marseille le week-end d'affilée.
Ah, mais enfin, il y aura quand même des pénaux, fais pas de soucis.
Ouais, Lyon devrait gagner, je pense, 2 ou 3. Hein.
Non, c'est
2
ou
3.
3-1 pour Lyon.
D'accord.
Ok.
Et moi, je dis 2-0 pour Lyon.
Comme moi.
Ouais, j'ai confiance en toi.
Quoi. Mais oh, n'importe quoi.
J'ai perdu.
On est les deux derniers. T'es au même niveau que moi. Hein. On est les deux derniers, donc je pense qu'on va marquer tous les deux.
C'est bien parce que Julien qui vient d'arriver, il est au même niveau que vous. Allez, Patrick.
2-1 pour Marseille.
Ah, merci. Et voilà, vous avez la réponse avec seulement un pronostic. Tu passes devant Laurent et Aurélien et tu m'égalises. Attention, Patrick. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il part d'excellentes bases.
Après, Patrick, toi, tu peux pas marquer de points quand on pronostique l'OM, voilà. Vu que tu les donnes toujours gagnants et qu'à chaque fois ils perdent.
Je ne peux absolument pas pronostiquer une défaite de Marseille. Donc c'est vrai que quand tu fais un match sur Marseille et que Marseille perd, automatiquement, j'ai perdu.
Il part sur d'excellentes bases, un peu comme l'OGC Nice. D'ailleurs, un championnat qui dégringole petit à petit.
Ouais, ça va, ils ont marqué un point à Bastia, ils restent en tête ou second.
Ils avaient 25 points d'avance il y a 3 semaines et ils sont 3e.
Non, c'est plutôt Aurélien l'an dernier qui arrivait dans l'émission et qui a enchaîné les bons résultats, et au bout de 6 mois, il avait tout donné.
Mais l'an dernier, j'étais le petit nouveau, cette fois-ci, c'est Julien, donc il a pris mon mojo. C'est à lui maintenant de faire sa place.
Bon, enfin, il a encore du boulot avant de rattraper Patrick. Doublé de la Lacazette, bravo Laurent.
Oui.
C'est bien, tu avais pronostiqué un doublé de la Lacazette.
Oui, ben, peut-être bien, je ne me rappelle plus, mais c'est un très bon joueur la Lacazette.
Oui.
Sur deux passes décisives des joueurs marseillais, donc c'est encore plus fort.
Oui, c'est ça.
Allez, justement,
c'est un opportuniste.
On commence par le foot aujourd'hui, donc ça y est, l'hiver est arrivé, le match de l'AFL est remis. Mais ce n'est pas le seul d'ailleurs, beaucoup de matchs reportés ce week-end en CFA2, seulement deux matchs au programme avec les réserves de Clermont Foot et de Saint-Etienne qui font match nul, un but partout, et la réserve de Bastia qui gagne contre Louhans-Cuiseaux deux buts à un. Alors on avait une question la semaine dernière, Julien, par rapport aux statistiques de l'AFL et de ses buts encaissés. Tu as bossé toute la semaine sur le sujet et on en sait un peu plus.
Moi j'en ai même fait des nuits blanches parce que c'était vraiment mon premier travail dans cette émission, alors il fallait vraiment pas que je m'en rate. Donc l'AFL en CFA2 a encaissé 20 buts, et il y a une stat donc vraiment intéressante, c'est qu'ils ont encaissé que 6 en première mi-temps, mais 14 en deuxième, et sur ces 14 encaissés, il y en a 13 qui l'ont été à partir de la 70e minute de jeu. Donc ça confirme un peu ce qu'on disait la semaine dernière sur les fins de match un petit peu difficiles à négocier pour l'AFL.
Voilà. C'est révélateur, excellente stat, et c'est révélateur justement des physionomies de ces rencontres qui se répètent un peu trop souvent malheureusement à notre goût.
Maintenant, les 20 dernières minutes, il faut cadenasser. Hein.
Et oui.
Il faut mettre 8 défenseurs. Et voilà. Et
on pour la semaine prochaine, ce qui pourrait faire le bleu, c'est.
Je ne vais pas être bleu toutes les semaines.
ça serait le ratio de buts marqués en fin de match.
La prochaine fois, tu me le demandes. La dernière, j'ai fait toutes les feuilles de match. Là, donc, on verra.
Oui, et d'ailleurs, il a un point marqué, il est plus bleu. C'est ceux qui n'ont pas de points, qui sont derniers au classement, qui doivent bosser un peu plus dans cette émission.
Non, mais ce qu'on peut rajouter ce week-end sur l'AFL, c'est que tout a été mis en œuvre pour que le match se joue, puisque vendredi matin, les employés de la Comcom étaient présents au chapitre pour déneiger le terrain. Donc, ce n'est pas la neige qui a empêché la tenue du match, mais ils se sont rendus compte, une fois que la neige était enlevé, que le terrain était un peu gelé, même beaucoup, et donc c'est pour ça que le match a été remis dès vendredi après-midi.
Laurent ?
Non, voilà, je voulais juste confirmer ce qu'a dit Patrick, c'est une bande sur toute la longueur du terrain qui était gelée, donc très dangereux pour des joueurs de foot.
Alors pourquoi Marvejol a pu jouer ?
Ouais, c'est quand même pas la même... Mais Marvejol était à l'extérieur. Hein.
Ah, c'était à l'extérieur ?
Non, c'était à l'extérieur.
D'accord, je crois que c'était à domicile.
Non, c'était à l'extérieur.
Okay,
et autre info, on se souvient tous, pour ceux qui étaient à ce fameux match contre Saint-Etienne, du virevoltant ailier Amidou Keita, qui a fait des misères pendant toute la rencontre à nos joueurs de l'AFL. Et bien Amidou Keita, maintenant, est titulaire en équipe première, et il a joué quasiment, je crois, plus de 70 minutes contre Angers hier après-midi. Et il a failli marquer, puisqu'il met un tir que tout le monde voyait dedans, et il est passé à 4-5 cm du poteau, donc on avait vu qu'il était vraiment au-dessus du lot, et donc ça n'a pas échappé au staff technique de Saint-Etienne, et donc depuis ce match contre Mende, il n'a plus quitté le groupe de l'équipe première.
Voilà, tu l'avais annoncé hein, suite à ce match qu'il allait incorporer rapidement.
Ouais, et je l'avais écrit dans mon compte-rendu de match le jeudi qui a suivi, et bon, donc j'étais bien inspiré.
Oui. Après, ils n'ont pas beaucoup d'attaquants, Saint-Etienne,
en plus,
ils sont
un peu en
galère. Le meilleur buteur est à 4 buts.
Oui, mais il faut signaler quand même que Galtier continue à écarter ses joueurs vraiment historiques, puisque Nolan Roux, l'avant-centre, est maintenant relégué hors du groupe, et donc il fait confiance plutôt à ses jeunes joueurs, et il a écarté encore une fois un joueur avec un des plus gros salaires du club.
Ouais. Oui, Aurélien. Alors,
est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une bonne journée pour la FL2 puisque Saint-Étienne et Louhans-Cuiseaux, qui sont juste devant la FL, il me semble, au classement, ont fait match nul et ont perdu. Donc, est-ce que quand même c'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que justement s'ils gagnent leur match en retard,
ça serait une bonne nouvelle si le match en retard ils gagnent.
Voilà.
Mais oui. Bon, Louhans a quand même deux matchs de moins par rapport à la FL. Donc,
mais parce qu'ils étaient potentiellement premier ex aequo.
Donc là,
la
ils sont plus potentiellement leaders, même en gagnant tous leurs matchs, puisque Saint-Priest n'a pas joué non plus. Donc ça se complique pour cette équipe de Louhans-Cuiseaux et pour l'AFL. Bon, il n'y a eu que deux matchs, c'est compliqué. Hein. C'est vrai que ce classement est difficile à analyser.
Voilà, comme tous ces sports d'extérieur où il y a des matchs en retard, c'est le cas aussi pour l'honneur régional.
D'ailleurs, la semaine prochaine, il n'y a pas de journée, mais il y a tout un tas de matchs en retard parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui en ont. Et donc, je
et
sais
pour
pas
l'instant,
si...
l'AFL n'est pas programmée. Voilà.
Alors, est-ce qu'ils vont reprogrammer ce man de Clermont?
Il faudrait voir si Clermont-Cournon. Si Cournon n'a pas déjà un match programmé, puisqu'ils avaient.
Alors, Cournon n'a pas de match programmé pour le moment.
Ça devrait se faire le week-end là, qui vient.
Qui vient, voilà. A priori, comme j'ai vu que Cournon n'avait pas...
Il
n'y
a rien sur le site de la Fédé.
Voilà, comme Cournon n'a pas de match en retard ce week-end, un AFL Clermont peut être programmé ce week-end. Mais on ne connaît pas ni la date ni l'heure pour l'instant.
Ok, alors en honneur régional...
Surtout qu'il y a le rugby qui joue dimanche à 15h.
Ils joueront sur le cos.
Les buts seront plus grands, du coup. Voilà,
mais... Ça complique un peu la donne aussi.
Ouais. C'est bon, tu peux enchaîner. Merci. Marvejol s'impose contre le Val de 16, 3-2, but de Papéfal à Sanlo, Idriss Diabaté. Au classement, Aurélien, donc tu pars de Marvejol et tu peux monter ou descendre comme bon te semble, ouais, suivant le nombre de
monter.
Points.
Donc Marvejol est 7e avec 24 points mais 2 matchs de moins. Devant eux, il y a Gignac, 6e, 25 points. 5e, Anduze. 4e, Rousson, 27 points. 3e, la Clermontaise, 31. Deuxième, Huchot, 36 points. Et premier, Pays du Zest, 38 points.
Il regarde devant, Aurélien, c'est bien. Peut-être regarder derrière, mais non.
C'est une belle victoire chez un mal classé. Donc, une victoire quand même assez logique de cette équipe de Marvejol, qui, à mon avis, peut finir dans les 4e premiers de ce championnat sans problème. Bon, après, il y a Pays du Zest qui est vraiment au-dessus du lot. On connaît toute l'histoire de ce club qui était national, puis qui a été liquidé financièrement, et donc là, qui est en train de remonter petit à petit, année après année. Voilà. Et donc, bon, ça sera dur pour la montée, mais Marvejol peut finir avec 4e premier, à mon avis.
Tu suis les autres sports un peu, Antoine, toi? Ou t'as pas le temps?
J'essaie de suivre un petit peu sur Facebook, là, et après, c'est compliqué d'aller voir les autres, forcément, parce que nous aussi, on joue en même temps, donc...
Mmh. Au chaud, au moins pas de match remis. Quoi qu'il n'y en a pas eu pour le volet dernièrement sur la.
Si, les féminines.
Ah oui. Bien, Laurent, tu suis.
Parce qu'Antoine a nous dit avant l'émission.
Ok, en PHA, on revient au foot. La réserve de l'AFL gagne contre le Nîmes Athlétique 2-0. But en fin de match, 80e, 83e. Barbu, c'est ça? Pas Barbut? Barbut? Barbu, ok. T'as eu des échos, Julien, de ce match?
Oui, des échos rapides. Donc il y avait 0-0 à la mi-temps. Et comme on pouvait un peu le laisser penser à la vue du classement de cette équipe de Nîmes Athlétique, qui avant notre match était à 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Donc on s'attendait vraiment à un match compliqué. Et sur les quelques échos que j'ai eus, apparemment, c'est vrai que le contexte en première mi-temps a été assez particulier. Et puis voilà, le fait d'aller gagner comme ça en fin de match prouve encore une fois toute la force collective qu'a ce groupe. Comme je l'avais dit une fois, personne ne lâche. Et hier, je me suis amusé à faire un petit compte depuis le début de saison. Si j'en ai pas oublié un ou deux, Maxime a déjà utilisé 31 joueurs.
Là, hier, il y avait quand même une équipe un poil renforcée avec des joueurs, un petit peu.
Il y avait notamment
Ibrahima Mboup.
Oui, Mboup qui est avec nous maintenant depuis 2-3 matchs. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi Ibrahima Mboup qui est redescendu avec nous. Donc voilà, une bonne victoire chez un adversaire compliqué. Là-bas à Nîmes, où je pense que pas beaucoup d'équipes iront prendre des points. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a eu le bonheur de voir que Chusclin s'était incliné 3-2 à la réserve d'Aigues Mortes. Donc maintenant, on a 10 points d'avance sur cette équipe de Chusclin, qui est notre adversaire dans 2 semaines. Et 8 sur Saint-Privat des Vieux, qui est notre plus proche poursuivant. Donc ça commence à sentir plutôt bon, même s'il ne faut pas s'enflammer puisqu'on n'a pas encore fini les matchs aller.
C'est fini là, c'est gagné là, c'est bon.
Non. Faut rester,
on l'a monté là.
Un peu comme Nice.
Arrête avec Nice.
Points d'avance, pareil.
Mais voilà, c'est. Et puis donc la semaine prochaine, un match important aussi à la maison contre Saint-Christol qui est dernier, égalité avec deux autres équipes. Donc il faudra prendre les points aussi contre des équipes plus mal classées que nous pour montrer que voilà, on a vraiment cette ambition de monter en DHR.
De toute façon, ne comptez pas sur Maxime, le coach, pour lâcher les matchs.
Ça, c'est sûr. Tout sera joué du quart de finale de Coupe Lozère à la dernière journée de championnat. Il lâchera rien et je pense que c'est pas dans notre intérêt de lâcher aussi.
En plus, à Nîmes, c'était sur un terrain synthétique. Donc là aussi, c'est pas évident, même si vous êtes habitué, puisque maintenant, il y a le Coste d'Auge. Et voilà, 10 victoires, match nul, 8 points d'avance, c'est-à-dire que ça fait plus de 2 victoires d'avance. Par rapport au second, bon, c'est vrai que ça sent bon. Après, on sait qu'une réserve, bon, ça dépend aussi, bien évidemment, de l'effectif de l'équipe au-dessus de toi. Mais c'est vrai que cette année, on sent quand même qu'il y a un effectif vraiment conséquent, beaucoup plus important, en tout cas, que les saisons précédentes. Et bon, tu l'as dit, 31 joueurs déjà utilisés, mais tu peux utiliser des joueurs. Mais là, c'est surtout la qualité est quasiment équivalente chez tous ces joueurs, donc ça fait que tu peux maintenir semaine après semaine un niveau qualitatif assez impressionnant. Et donc c'est vrai que tu fais maintenant figure d'immense favori pour cette accession en DHR.
Tu disais une réserve, ça dépend de l'effectif au-dessus de toi. Tu confirmes, Antoine ?
Comment ça ?
Qu'on peut te prendre des joueurs, ça peut t'affaiblir, ou vice-versa, récupérer quelques joueurs pour certains matchs importants, si jamais la Une ne joue pas, ou etc. Est-ce que tu es dépendant de cette équipe Une, ou pas du tout ? Tu as ton effectif qui bouge quasiment pas, toi, et tu peux t'appuyer dessus tout au long de la saison ?
Nous, on ne dépend pas vraiment de la Une. Après, en fait, je ne sais pas comment ça marche dans les autres sports, mais s'il y a un joueur qui fait l'aller-retour, après, il y a des matchs où il n'a pas le droit de jouer, en fait.
D'accord, ok. Donc,
ou alors, il y avait l'exemple de Mathieu Sarus l'an dernier, qui est un jeune joueur, et je crois que c'était 45 points. Il pouvait faire que 45 points avec la 1 pour pouvoir jouer avec la 2. Quoi.
Ah ouais.
C'est beaucoup moins évident que pour le football, où c'est vrai, c'est plus facile de faire descendre des joueurs de la 1 en 2. Au volleyball, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un règlement qui est très contraignant, et donc en principe, les joueurs qui sont inscrits dans l'effectif 1 au début de la saison ne peuvent pas évoluer en équipe 2, sauf certaines conditions d'âge, bon, mais c'est vraiment à la marge. C'est-à-dire par exemple un joueur comme Carlos Antoni, qui a maintenant la trentaine, ou Ali Carboa, ils sont inscrits dans l'effectif 1, tu ne peux absolument pas les faire jouer en équipe réserve.
D'accord. Alors,
à n'importe quel moment de la saison, tu ne peux pas les faire jouer.
Tu as un jeune joueur qui explose totalement en équipe réserve. Toi, ton équipe élite fait les play-offs. C'est compliqué de pouvoir le récupérer.
Tu peux le récupérer, mais parce que c'est un jeune joueur, parce que...
Et puis après, il ne pourra peut-être pas revenir en équipe 2.
Voilà, d'ailleurs, je crois me souvenir qu'en équipe 1, tu es obligé d'avoir un joueur de moins de 20 ans, ou, enfin bon, parce qu'il faut aussi des jeunes. Enfin bon, le volleyball, on le dit, surtout tout un tas de règlements, c'est vraiment très spécifique. Et donc, il n'y a pas ces passerelles entre la 1 et la 2, c'est vraiment très compliqué par rapport à d'autres sports, en particulier au football.
Allez, on finit. Tu voulais intervenir ?
Vas-y, Julien. C'est que le football, c'est plus facile puisque... Là, par exemple, un joueur qui a moins de 23 ans, qui a joué 45 minutes ou moins en CFA2, peut jouer le lendemain avec la PHA. Donc c'est possible qu'il fasse deux matchs dans le week-end. Et
okay.
Autre petit point de règlement qui permet aussi de se renforcer éventuellement pour une équipe réserve, si elle est en difficulté en championnat ou si elle veut assurer une montée assez rapidement. L'équipe réserve peut prendre trois joueurs qui ont fait plus de trois matchs en CFA2. Donc c'est vrai que c'est moins compliqué au foot qu'au volley, et c'est peut-être plus facile de se renforcer au foot.
Ok.
Tout à fait.
On parlera pas de basket, hein, Aurélien. Tu nous excuses.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas d'équipe.
Parce qu'il n'y a pas d'équipe.
Ni une, ni deux.
Ni trois. Allez, on finit le foot. PHB, le Buisson obtient un bon match nul, 3 buts partout à Kessargue, et Badarou, un but partout. à Saint-Paulet. En rugby, une première victoire pour le RCML avec 7 victoires tant attendues.
Première victoire à l'extérieur.
À l'extérieur, j'y arrive contre Vinassan d'un petit point, 17 à 16. Pour Mende, deux essais de Boursier et Vessade, ainsi que deux transformations et une pénalité de Castel. Donc ça y est, on attendait cette victoire à l'extérieur. Ça y est, on y arrivait.
Tu peux compter un point à Aurélien parce qu'il avait pris un engagement. Bon, il n'a pas dit le score, hein, mais il s'était engagé très fortement sur cette première victoire à l'extérieur. Et donc, félicitations, capitaine.
Là, tu remets pas le son.
Félicitations, capitaine.
Je m'en rappelais plus. J'ai pas entendu. Je croyais que c'était Laurent
qui l'a dit. Parce que justement, la semaine dernière, on a été tous les deux à l'annoncer cette victoire.
Allez, ça y est, il se raccroche. C'est pas possible, ce mec. Non, mais de toute façon, ça compte aucun point, mais c'est bien. Ouais, bah tiens, on va te laisser la parole, Aurélien. Alors sur cette victoire à l'extérieur, pourquoi tu sentais ce match?
Non, parce que ça faisait 2-3 matchs qu'ils y tournaient autour sans pouvoir accrocher cette victoire, soit par des fautes de main, soit par des mauvaises organisations défensives ou des choses comme ça. Donc à chaque fois, ils étaient pas loin. Ils dominaient le match, mais ils n'arrivaient pas à concrétiser. Donc là, contre un mal classé, la logique voulait que s'ils continuaient sur leur lancée, ils pouvaient décrocher cette victoire. On voit que ça n'a pas été facile, hein, 17 à 16. Et puis, Marc, l'essai de la victoire à la 73e ou 74e, je crois, fin de match.
C'est minuit de la fin, un peu moins.
Est-ce qu'ils ont fait une tortue cette fois-ci?
Pas sur le deuxième essai. Sur le premier, oui, mais sur le deuxième, non.
Bien, Laurent.
Donc, elle a été longue à se dessiner, mais ça fait plaisir. Ça leur permet un petit peu au classement de raccrocher la sixième place et le groupe de tête, de voir un petit peu plus haut. Maintenant, il va falloir la confirmer à domicile pour qu'elle compte, cette victoire à l'extérieur.
Voilà, sixième à 25 points, derrière, devant plutôt, il y a Prat, Pic Saint-Loup, 28 points. Mende qui a un match en retard, hein, je crois, hein, il me semble, hein, oui. De tête comme ça.
Et alors donc ce week-end, tu disais tout à l'heure qu'il joue à domicile, contre qui?
Il joue contre Lunel.
Ah, troisième Lunel.
Ouais, gros match en perspective.
Voilà.
C'est pour ça, il va falloir confirmer.
Non, mais on attendait cette victoire depuis un moment, comme la saison dernière, elle avait été longue à se dessiner. Donc en principe, ça, l'année dernière, ça avait fait un déclic, on espère que ça sera la même chose cette année. Et puis Vinassan, ça avait quand même un petit art particulier, parce qu'on se souvient que c'est Vinassan qui a empêché Mende d'avoir ce fameux bouclier du championnat de promotion d'honneur Languedoc la saison dernière, puisque Vinassan s'était imposé en finale contre le RCML. Et donc Vinassan a beaucoup plus de mal que nos amis mandois à s'adapter au niveau supérieur au championnat d'honneur. Donc on se souvient qu'ils avaient pris une vraie pâtée au chapitre, cette équipe de Vinassan, puis là donc une victoire à l'extérieur.
Il y a combien d'équipes qui descendent dans ce championnat à la fin?
Ben déjà, tu as une équipe qui a fait forfait avant le début de la saison, puisqu'au début tu étais 10. Mm-hmm. Donc à mon avis, tu as que le dernier qui doit descendre.
Le 9e, donc voilà, Toche Corbière.
Le 9e, ouais. Et donc oui, après, donc,
maintenant les Mendois peuvent jouer sans pression.
Après, il y a cette histoire de play-off. D'après ce qu'on m'a dit, il y a les deux premiers qui sont qualifiés automatiquement. Et donc après, ça doit se jouer entre les 3e et 6e. Donc voilà. Le 3e doit recevoir le 6e, le 4e doit recevoir le 5e. Et donc les deux vainqueurs, après, sont qualifiés pour les demi-finales. Face aux deux.
Vu qu'on a 7 points d'avance sur le 7e, ouais. C'est bien parti.
Donc en gros.
Et à vérifier parce que j'ai pas encore vraiment vu. On me l'a raconté comme ça, mais j'ai vraiment pas vu sur le site de la Ligue Languedoc vraiment comment c'est écrit noir sur blanc.
Là, ce que tu nous décris, c'est ce qui se passe en top 14 en fait après la première phase de championnat pour les playoffs, pour les matchs de barrage après et les phases finales.
C'est pour ça que je suis prudent parce que certains me disent que les 6 premiers donc sont qualifiés, mais d'autres me disent que les 7 premiers seraient qualifiés, mais en qualifiant les 7 premiers, je vois pas trop la formule qui peut après arriver
mathématiquement
à des
demi-finales, ça marche pas.
Voilà, c'est pour ça.
Et par contre, ça voudrait dire que si le 3e reçoit le 6e, ce Mende Lunel de ce week-end pourrait être le match des playoffs en fin de saison.
Voilà, c'est pour ça que ça. Pour l'objectif pour les Mendois, c'est
sauf que ça serait
d'être dans les 4 premiers parce que ça te permettrait de recevoir justement ce qu'on appelle un quart de finale, un faux quart de finale. Mais bon, ça augmenterait considérablement tes chances de te qualifier pour les demi-finales, sachant que les demi-finales sont de toute façon sur terrain neutre. Ça, c'est une base, c'est une base vraiment énorme du rugby. C'était comme ça l'année dernière. Donc, c'est que les quarts de finale
qui te permettent de...
Voilà, les barrages. C'est exactement ça.
Ok, merci Patrick.
Le 4e est à 8 points devant nous. Donc là, je pas.
Oui, mais t'as un match en retard.
Il y a un match en retard.
Ah, d'accord.
À domicile, d'ailleurs.
Bon, mais c'est bon.
Et d'ailleurs, je crois que c'est contre Sijan, le second. Donc là aussi, gros match. Mmh.
Allez, volleyball première pour l'équipe élite avec une victoire sans encaisser de 7 à Calais, 19-25, 15-25, 15-25. Alors Patrick, avant de parler du MVL, on attendait avec un peu d'espoir le choc de ce week-end entre le premier et le troisième, Fréjus qui recevait oui. Avignon. Eh bien non, on change rien, 3-7 à 0 pour Avignon, Mende reste deuxième. Il faudra plus que jamais gagner Avignon à domicile en février prochain.
Alors le score est un peu trompeur parce que ça a été beaucoup plus serré que ce 3-7 à 0, puisque Avignon, aussi bien dans le premier que dans le troisième set, s'impose 27-25 et 29-27. Donc ça veut bien dire que ça a été vraiment serré, mais bon, Avignon maîtrise quand même son sujet, ne lâche rien, a vraiment cette année, alors qu'avant, c'est vrai, les saisons précédentes, on avait l'impression d'un club où il y avait des clans, où les joueurs étaient un peu dispersés, et là, cette année, on a l'impression qu'ils sont vraiment soudés, qu'ils ont envie, un objectif, c'est-à-dire, se qualifier pour les playoffs, ça, on le sait depuis longtemps, mais d'être dans ces deux premiers, après la deuxième phase, qui mènerait le club en Ligue B. Donc, dans le 4 février, là, dans 15 jours, il y a un match vraiment totalement incroyable qui s'annonce, MVL Avignon. Bon, ça va être un choc monumental. Hein.
Julien.
Oui, pour revenir rapidement sur le match de Fréjus-Avignon, j'ai eu quelques échos de ce match. Et c'est vrai que Fréjus, de ce qu'on m'a dit en tout cas, a opposé une super résistance. Mais que là où Avignon avait vraiment fait la différence, c'était dans les points importants. Sur les fins de set, où ça a vraiment basculé en leur faveur. Ils ont vraiment joué en patron, en fait, en leader, où ils ont imposé leur jeu, leur technique. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Et on m'a dit aussi que ce match du MVL, alors certes, il sert à rien.
Il sert à rien, on l'avait dit.
Au point de vue classement, il sert à rien. Mais je pense qu'avant d'aborder quand même ce match contre le leader Avignon, s'imposer pour la première fois 3-7 à 0, même si c'était chez le dernier, certes, mais s'imposer 3-7 à 0, je pense que c'est vraiment très très bon pour la confiance. Et ça envoie aussi un message, mine de rien, à Avignon qui montre, enfin, Mende montre qu'ils lâcheront rien quoi, jusqu'au bout, et ça c'est positif.
Si y a victoire 3-7 à 2 contre Avignon,
oui.
Du coup, on prend combien de points et eux combien ?
2. Nous, si on gagne 2, si on gagne 3-2, on marquera 2 points et eux, Avignon 1 point.
Donc on sera ex aequo.
Ouais, mais il faudra voir après, parce que tu sais que tu gardes les points uniquement contre les trois autres équipes qui vont se qualifier pour les playoffs.
Oui, et là, tout actuellement,
si tu regardes le quatrième équipe, bon, tu sais déjà que Mende, Avignon et Fréjus vont se qualifier pour les playoffs, mais au niveau du quatrième, il y a une totale incertitude entre Amiens et Halluin, et donc il faut attendre vraiment qui de ces deux équipes va passer en playoffs pour faire le classement vraiment final de cette deuxième phase.
D'accord. Antoine.
Oui. Si je peux me permettre, par rapport à Fréjus, par exemple, c'est Mende ayant gagné deux fois à 3 points. C'est-à-dire que sur la deuxième phase, Mende aura 6 points devant Fréjus.
Mmh. Oui, non, mais c'était par rapport à Avignon. Je me posais la question.
Ça dépend quel match a perdu Avignon et quel match toi t'as perdu.
Voilà, parce que je crois qu'Avignon a fait un 3-2, par exemple, contre Halluin. Donc si Halluin n'est pas qualifié dans les 4, ben, ce match-là...
Contre Rapporien.
Voilà. Alors que si ce match-là, si Halluin finit 4e, bon, ben, Avignon perdra un point par rapport au score maximal.
Ouais, il faut être pour Halluin alors. Hein, on va supporter cette équipe. Antoine, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe cette année du MVL? Elle peut créer la grosse surprise de réussir une seconde montée consécutive, ou ça paraît quand même compliqué?
Bah, c'est le volley, hein. Puis je pense que le sport en général, rien ne se joue avant. Enfin, il faut vraiment voir le match sur le moment présent. Après, on a une belle équipe cette saison, essentiellement composée de la même équipe que l'an dernier, plus bien renforcée par les nouveaux arrivants. Donc pourquoi pas, hein. Après, il faut rêver, ça peut marcher. Hein.
Tu vas aller voir, j'imagine, Patrick, tu vas intervenir ?
Oui, non, mais par rapport à ce match de Calais, donc, qui servait à rien, puisque même si tu avais perdu, les points auraient été annulés, puisque Calais va pas se qualifier, bien évidemment. Costant a profité de ce match pour faire justement tourner son effectif. Il a 12 joueurs à sa disposition, et d'ailleurs, ben, le passeur Boris Takaniko, qui est remplaçant, était titulaire au coup d'envoi dès le début du match, dès les premiers points de ce premier set. Et puis après, bon, ben, Anthony Velay est entré, Robin Utrel. Et entrer aussi, donc voilà, il y a eu tout un turnover. Sofiane aussi a retrouvé les parquets, puisque bon, Anthony Chaillou lui est passé devant depuis quelques matchs. Donc ça a permis quand même de faire une revue d'effectifs et de concerner tout le monde, justement pour cette fin de saison qui s'annonce vraiment passionnante, puisqu'on peut déjà commencer à voir les de l'autre côté. Donc c'est Épinal qui est premier, deuxième, tu as
Saint-Jean-Dillac,
donc c'est la banlieue de Bordeaux. Troisième, tu as Alès, donc oui. Un bon derby peut-être en perspective. Et puis tu as bien sûr là aussi, merci la fédération. Donc tu vas avoir qualifié le CNVB, donc nos amis, nos jeunes espoirs de Montpellier, qui n'ont pas gagné un match, mais qui vont se qualifier automatiquement pour les playoffs.
Pourquoi ?
Parce que c'est la fédération qui dit qu'il faut que, comme c'est les jeunes espoirs, il faut qu'ils jouent contre les meilleures équipes. Donc ils sont automatiquement qualifiés pour les playoffs, alors qu'ils n'ont pas gagné un match depuis.
Ça bouffe une place dans l'autre championnat.
Voilà, donc c'est-à-dire que tu as une équipe comme Grenoble ou Caudry qui actuellement sont égalité à la quatrième place, ben tous les deux actuellement sont exclus parce qu'il faut récupérer le CNVB. Donc c'est quand même fabuleux. C'est quand même fabuleux de voir ça dans n'importe quel sport. On connaît bien le football. Si tu annonçais ça avant le début de saison, pendant l'assemblée générale, je pense que le président peut être ligoté pris en otage. Bon voilà,
mais au volley-ball
ça passe et donc pourquoi pas. Donc Mann est sûr de jouer deux fois contre le CNVB, une équipe qui n'a pas gagné un match.
C'est bien, on va gagner deux matchs comme ça.
Est-ce que à Calais, il y avait toujours le fils volé?
Oui, il y a Kevin qui vit une saison en enfer, on peut le souligner, puisque d'ailleurs, pendant les fêtes de Noël, le pointu américain qu'on avait vu voilà, et donc il a fait les valises, donc il a dit bon, merci les gars, ciao, vous êtes bien gentils.
Et retourné voir Donald Trump.
Je m'en vais, donc voilà, non, pour te dire dans quel état de décrépitude se trouve ce club de Calais actuellement. Calais, quand même, on en rigole, mais qui a été un des plus grands clubs français, qui a connu le niveau professionnel pendant des années, c'est quand même assez triste de voir ce que ce club est en train de devenir.
Eh oui. Allez, les prénationales avec le coach ici présent, Antoine Couturier. Alors, on va pas te cacher que depuis le début de la saison, on a eu un peu peur pour cette équipe de prénationales. Et là, ça fait quelques semaines que ça va beaucoup mieux, avec des victoires qui s'enchaînent ou des défaites, mais avec des bons résultats. Comment on peut expliquer ce changement pour cette équipe de prénationales ?
Eh bien, c'est tout simple. L'objectif était de faire un meilleur début de saison que l'an dernier. Malheureusement,
ça s'est loupé, ça.
Ouais, les problématiques se sont reposées face à nous. C'est-à-dire que j'ai eu trois joueurs qui venaient de l'extérieur qui ont eu des problèmes de licence pour deux joueurs et un autre qui venait pour le travail qu'au 1er octobre, donc en sachant que le championnat avait déjà commencé depuis 3-4 matchs. Donc compliqué d'avoir toujours le même effectif, plus les jeunes qui ont eu des problèmes de double surclassement, puisqu'il faut des tests médicaux particuliers. Donc ouais, début de saison un peu compliqué, maintenant ça a l'air d'aller un peu mieux, on est sur une bonne série en effet. Là le match de ce week-end a été vraiment bénéfique et nous a apporté beaucoup de satisfaction, déjà moi personnellement sur les valeurs annoncées à l'entraînement, sur la cohésion et le fait de jouer en équipe, de serrer les coudes, et ça c'est vrai que ça nous a fait grand bien, et même le banc, les joueurs remplaçants ont apporté leur pierre à l'édifice en mettant l'ambiance, quoi. Et ça c'est important, quoi. Ça vaut beaucoup de choses. Et ensuite, dans le jeu, chaque joueur a apporté sa pierre à l'édifice.
Ouais, finalement, c'est dur de commencer son tour d'équipe type, entre guillemets, d'incorporer des jeunes joueurs, d'attendre que les autres arrivent. La victoire contre le MUC, un peu, ça a été un déclic. Cette victoire 3-7-2, j'ai l'impression qu'à partir de là, vous avez commencé à engranger plus de confiance.
Oui, non, en fait. Alors déjà, le MUC, de mémoire, il me semble que c'était le premier match de mon passeur, donc qui est arrivé début octobre. Ensuite, après, on avait une équipe quand même correcte, mais on n'avait pas encore tout le monde. Mais ouais, on a réussi à aller chercher. Après, de là dire que c'est l'élément déclencheur, je sais pas trop. Mais c'est vrai que, en fait, le problème aussi, c'est au volley. Alors, je sais pas comment c'est dans les autres sports, hein, mais... Si on découvre l'équipe, il faut quand même un temps d'adaptation, le temps que tout le monde sache comment on joue ensemble, comment on peut donner. Et l'an dernier, ça a été déjà le cas. Première partie de saison, on avait gagné que deux matchs sur la phase aller. Et à match retour, on avait gagné le leader, on avait perdu 3-2 contre le second. Enfin, on avait fait une excellente deuxième partie de saison. Et là, cette année, on se retrouve avec la même histoire, quoi. C'est-à-dire un nouvel effectif, plus les retards et tout, donc le temps que l'équipe se mette en place. Donc, voilà, après samedi, j'espère que la victoire là va permettre aux joueurs de se dire bon, on est vraiment capable de faire quelque chose et de se relancer pour aller chercher, comme on s'était mis comme objectif, la cinquième voire la quatrième place.
Donc samedi, vous jouez contre qui ?
Samedi, on joue pas parce que c'est je vais en profiter pour faire la pub.
Ouais.
C'est week-end de Coupe de France. Donc les week-ends de Coupe de France, il y a pas de match de championnat. Et là, en l'occurrence, il y a les M17 masculins que j'entraîne, qui sont encore qui est la seule équipe encore en Coupe de France hormis l'élite, mais l'équipe jeune du club. Et on reçoit donc dimanche à partir de 11h, on reçoit Laragoût 7 et Cagnes-sur-Mer.
Par contre, bon, juste une question. Je constate que tu es jeune pour être entraîneur, voire très jeune. Est-ce que tu joues aussi dans cette équipe 2 ou tu es seulement entraîneur?
Ouais, donc on en parlait avant l'émission. Le but, c'était d'être entraîneur. Maintenant, en début de saison, il n'y a pas trop eu le choix, quoi. J'ai fait entraîneur-joueur. J'ai joué 5 matchs. Après, moi, je me considère un peu comme un joker, quoi. C'est-à-dire, j'essaie de faire de mon mieux et de compenser les déséquilibres. Du coup, j'ai joué trois postes différents sur les 5 premiers matchs. Et dernièrement, je suis rentré juste ponctuellement pour essayer d'apporter une...
Ouais, parce que on se rappelle ce que Constant nous disait, c'est que c'est pas évident d'être entraîneur-joueur, d'avoir assez de recul pour voir ce qu'il faut corriger en cours de match. Donc voilà, c'était le but de ma question, voir où c'est que tu en étais.
Merci. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. On en parlait avec mon collègue du basket tout à l'heure. C'est vrai que après ça dépend le poste, mais comme je lui disais, on dit qu'il faut deux niveaux au-dessus pour pouvoir être entraîneur-joueur correct. Donc Constant, lui, il pouvait le faire parce que ayant joué en Liga et étant joueur international, il avait l'expérience pour pouvoir jouer en élite et entraîner en même temps, quoi. Mais c'est vrai que sinon ça reste compliqué à notre niveau.
Patrick ?
Non mais c'est vrai, week-end Coupe de France, c'est ce que je voulais dire. Donc l'équipe Fagnon du MVL se déplace à Niort, donc pour le compte de cette Coupe de France, Niort qui évolue à 1-3. Donc un gros écart de division, deux divisions d'écart, on sait qu'au volet c'est assez énorme. Attention au piège quand même, voilà, parce qu'il veut Niort est invaincu dans sa poule. C'est vraiment bon, ils ont rien à faire à 1-3 vu les joueurs qu'ils ont, des ex-pros qui
se font plaisir, gros piège, hein.
Qui se font plaisir. Mais bon, c'est vrai que ça serait une terrible désillusion, une équipe élite qui va mener, qui mène quasiment sa poule d'élite, se faire sortir par une 1-3, ça serait un coup de tonnerre. Mais bon, il faut être vigilant. Donc c'est ce samedi, là aussi, bonne préparation pour le choc contre Avignon.
Et pour les M17, que vaut l'équipe que vous recevez ?
Deux équipes. En fait, là, on en est au quatrième tour. Quatrième tour, il y a 7 tours et ensuite, c'est les phases finales. Donc quatrième tour, on joue l'Arago. Donc l'Arago, on les connaît bien. Je pense que c'est une équipe qui a à peu près notre style de jeu et nos qualités. Après, ça, c'est toujours pareil, c'est compliqué. C'est des matchs en 2-7 gagnants, donc on n'aborde pas les matchs de la même manière. Puis c'est pareil, c'est compliqué. Sur le premier match, du coup, on va jouer l'Arago. Après, le vainqueur reste sur le terrain, le perdant sort. Et après, donc, tu joues soit le deuxième, soit le troisième match. Et si tu perds, t'attends déjà le résultat du deuxième match. Et puis après, t'as la pression supplémentaire sur le troisième, si jamais c'est le match pour la qualif, quoi, puisque les deux premiers passent.
C'est quel tour, là ?
Quatrième.
Quatrième. Et à partir de quel tour ça commence à être vraiment...
Septième. J'écoute rien, Laurent, tu fatigues.
Il a dit.
Il demandait à partir de quel tour le niveau commence.
Le cubile, on a enfin fini.
On a plus de 20.
Pour répondre à ta question, après, ça dépend vraiment des équipes. Au troisième tour, on est allé jouer à Cannes, par exemple. On a joué l'équipe de Cannes, et l'équipe de Cannes, qui s'annonce jouer le titre de champion de... sur la Coupe de France. Après, voilà, ils ont 9 joueurs qui évoluent en structure, donc soit en sein de Pôle Espoir, il y en a un qui évolue au CNVB, 2 qui jouent en équipe de France cadet, donc il peut y avoir des grosses équipes. Après, c'est vrai que plus les tours vont passer, plus ça va être des beaux matchs et accrochés. Déjà, je pense que le quatrième tour, il faut venir encourager, parce qu'en plus, ça risque d'être le dernier à domicile, donc il va y avoir du beau jeu, quoi.
Mais si on veut revenir sur l'équipe réserve, si certains peuvent se poser des questions sur l'utilité, c'est vrai, les liens qu'il peut y avoir, ils sont tous trouvés, puisque l'année dernière, dans cette équipe de pré-national, il y avait Moussé Gueye et Anthony Chaillou, qui ont joué toute l'année dernière en réserve. Et donc cette année, ils ont commencé, j'allais dire, tranquillement sur le banc des remplaçants. Et puis dorénavant, ils sont titulaires dans cette équipe élite. Donc il y a vraiment des passerelles. Alors au volet, c'est ça, et Costant est vraiment un coach qui sait faire ça, c'est-à-dire de mettre des garçons un peu dans une pouponnière, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais tout le monde comprend ce que ça veut dire.
Pouponne, Antoine.
Un sport. Et donc c'est-à-dire, tu vois, pour que le joueur arrive à maturité. Et donc pendant un an, ils ont fait leur gamme, ils sont allés un peu dans tous ces gymnases un peu improbables du Languedoc-Roussillon. Et ça forge aussi bien un caractère qu'un jeu, un mental. Et puis bon, cette année, on voit tout l'apport de cette équipe. On l'a vu, Julien contre Fréjus, Moussé Gueye totalement impressionnant au centre, et Anthony Chaillou très sûr au poste de libéraux en réception et en défense. Donc chapeau à ce staff du MVL de former ces joueurs et de les amener au plus haut niveau.
C'est intéressant ce que tu dis, Patrick. Y a une relation avec Constant, Antoine, où en début de saison, peut-être, il voit un joueur, il te dit, est-ce que tu pourrais essayer de le faire progresser sur cet aspect-là de technique, ou en se disant, peut-être que l'an prochain, il aura le niveau pour que je l'incorpore dans mon équipe. Y a des réflexions début de saison comme ça?
Il y a deux cas de figure qui se présentent à nous. Donc, le premier, c'est les joueurs qui arrivent de l'extérieur. Donc, comme l'an dernier, Anthony Chaillou et Moussé Gueye. Où pour Anthony Chaillou, le choix était vite vu du poste de libéraux. Ou pour Moussé, par exemple,
parce
j'ai parlé
avec Constant. C'est pour ça.
Ouais, bah oui, c'est ça.
T'étais libéraux, toi, au foot.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais toi, t'es grand.
Mais ça n'a rien à voir, le foot.
Ouais, je sais.
Et pour Moussé, où je lui ai posé la question à un moment donné en début de saison de savoir à quel poste il voulait le faire évoluer pour l'avenir. Après, comme je leur avais dit à eux deux, je pense que le championnat pouvait leur apporter en termes de responsabilité, en fait. Ça pouvait être. Vraiment important pour eux de prendre de la place par rapport à l'équipe 1. Mais bon, du coup, là, c'est, je pense plus à Sedina Gueye et à Mohamed Yerou, les deux recrues extérieures, en plus de Clément Margot, mais lui, il est trop vieux pour intégrer l'élite. Mais ces deux jeunes-là qui sont venus de l'extérieur. Non, je pense qu'il y en a conscience. Mais ces deux jeunes-là, voilà, qui viennent là clairement pour ça. Donc eux, forcément, y a derrière, faut pousser au cul et. Excusez-moi l'expression, mais pour les faire progresser. Et puis il y a aussi la deuxième voie, c'est les jeunes, donc notamment les cadets, les M17, j'ai intégré 6 joueurs à l'effectif de pré-national, donc voilà, qui ont plus ou moins de temps de jeu, mais au moins qui s'entraînent toujours avec eux et qui essaient derrière de progresser pour faire leur place. Et on en parle avec Constant, éventuellement intégrer les entraînements.
Vous entraînez à part ou vous entraînez en même temps que l'équipe élite? Non, c'est des entraînements différents?
C'est des entraînements différents et je pense tant mieux pour les joueurs de l'élite, entre guillemets, parce que c'est vrai que plus on est nombreux et moins on a de temps de jeu, moins on travaille. Là, après, Constant est en 12 joueurs, donc c'est ce qui change de l'an dernier. Du coup, c'est compliqué d'intégrer d'autres personnes. Après, on essaie ponctuellement de donner envie et de montrer que c'est possible. Mais... ça reste, sur 12, ça reste compliqué. L'an dernier, par exemple, Moussé et Anthony faisaient tous les entraînements de la une en plus des miens, enfin, ou les miens en plus de ceux de la une, parce que l'effectif était de 8 ou 9. Donc il y avait la place pour accueillir 12 pour faire une opposition, donc ils étaient là pour travailler, quoi.
Ok, Aurélien.
Et toi, personnellement, c'est quoi ton parcours pour être arrivé au poste de coach de cette pré-nationale? Comme le disait Laurent tout à l'heure, tu étais assez jeune quand même. Donc ça fait combien de temps que tu entraînes cette équipe et c'est quoi ton parcours pour être arrivé à ce poste?
26 ans, c'est jeune?
Oui.
Tu sais qu'avec des vieux, là.
Quand tu vois les gens autour de la table, oui.
Il y a Julien qui
est... Julien, il baisse la moyenne.
Heureusement, hein.
Non, c'est tout simple. Hein. Moi, ça faisait 4 ans que j'étais sur Lyon là, pour un master prépa physique et mental. Après, je cherchais à évoluer dans un club qui était structuré, qui avait envie de former les jeunes et de chercher un peu le haut niveau, quoi. Donc, j'ai eu la proposition de Mende qui est arrivée. Et puis, en voyant Constant et les dirigeants, c'est bien passé. Donc, je me suis dit, allez, on se lance dans l'aventure. Et après, naturellement, ça s'est fait sur les équipes qui avaient besoin, entre guillemets. J'ai remplacé Maxime Meunier, donc qui lui était déjà en charge sur ces équipes-là. Et du coup, ils m'ont gardé là-dessus. Et après, par contre, en début de saison, donc l'année dernière, J'avais demandé à Constant s'il voulait bien de moi sur les entraînements de la Une en tant qu'adjoint. Et il a accepté, donc voilà, c'est vrai qu'on essaie de travailler ensemble pour évoluer au mieux. Quoi.
Et toi, tu viens de quel sport à la base ?
Du volet.
Du volet quand même.
Ça fait, j'ai commencé.
C'est quoi cette question ?
Non, bah, il nous parle de sa.
Je viens du badminton.
Non, mais c'est vrai, ça revient.
Amal Baïch ne vient pas du volet.
Il y a un filet.
Tout à fait.
Amal ne venait pas du volet.
Elle est atypique, Amal quand même.
Oui, tout à fait.
Moi, c'est vrai que non, j'ai commencé le volet à 8 ans.
Enfin, pas elle est atypique, son parcours, pardon. Oui, excuse-moi.
Non, je dis, si vous voulez tout savoir, j'ai commencé le volley à 8 ans, donc j'ai jamais arrêté et j'entraîne depuis 7 ans à peu près.
Prépa physique et mentale, tu pourrais donner quelques cours à Laurent, parce qu'il y a certaines émissions où on le sent pas prêt, tu vois, il lui manque quelque chose.
Non, physiquement ça va, mais mentalement des
fois
ça
va,
mentalement ça va. Il y a la surprise des fois.
Pour terminer cette page, l'après-national, alors on sait, on l'a dit tout au long de cette émission, que c'est assez spécial, le volley c'est assez compliqué. C'est pareil, il y a des playoffs pour vous, comment ça se passe à votre niveau ?
Alors pas du tout, et c'est là où ça va devenir tendu, c'est-à-dire que
on a
qu'un championnat en fait en phase aller-retour, donc on est une équipe, on est un championnat de 10 équipes, donc ce qui nous fait 18 matchs au total, et à la fin de ces 18 matchs, bah, en gros, on joue la montée, soit on est premier, donc en fait ils prennent le premier de la poule Languedoc-Roussillon et le premier de la poule Midi-Pyrénées, qui vont se croiser, le vainqueur monte direct en N3 et le perdant jouera un tournoi qualificatif pour la montée. Et les deux derniers de notre poule descendent. Et après, tous ceux du milieu, bah, ils se maintiennent.
Ouais.
Avec plus ou moins de réussite ou pas, mais voilà.
Ok. Ouais, c'est...
Donc il faut éviter les deux dernières places.
Voilà. Et puis c'est vrai que cette année,
c'est
en fait, il y a pas mal de craintes parce que le championnat est beaucoup plus homogène que l'an dernier, donc toutes les équipes se valent. Vous avez bien vu Clermont-Lérault qui la semaine dernière a battu Perpignan. D'ailleurs, Perpignan, c'est notre prochain match le 18 février chez eux. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué cette saison. Tout le monde peut battre tout le monde. On a des surprises chaque week-end. Les derniers qui battent des premiers. Donc c'est compliqué de sortir son épingle du jeu. Après, comme je dis toujours, faut se regarder et faire le meilleur. Après, on voit ce qui se passe.
Ok, bah en tout cas, vous êtes bien remonté là, 7e, 12 points de match de moins. Derrière vous, Croix d'Argent, 12 points également, mais avec une totalité des matchs qui ont été joués. Croix d'Argent, Montpellier à Vuc, 12 points, Béziers, Maraussan, 11 points, et devant vous, l'ASBA Montpellier à 16 points, Clermont-Lérault, 18. Donc avec deux matchs en moins, on peut espérer encore grappiller quelques places et remonter dans ce classement.
Tout à fait. Et après, bah, du coup, par rapport à notre discours, là, je suis en train de regarder. Croix d'Argent, 7 volleyball qui se jouent ce week-end. Croix d'Argent a gagné 3-2 et 7 volleyball qui est en haut du tableau. Donc comme quoi, vous voyez,
ouais.
Le championnat est particulièrement homogène. Et il va falloir continuer de cravacher pour se sortir de ce bas de tableau.
De cette zone rouge, mais ouais. ça remonte, c'est bien. Merci beaucoup Antoine de nous avoir éclairci sur cette équipe de pré-national dont on parle chaque week-end dans cette émission. Allez, on va faire une pause musicale avant de parler à l'actu nationale, internationale et rire un peu avec les pronostics de Laurent et d'Aurélien sur ce Monaco au Paris, sur ce Paris-Monaco qui se profile bientôt. Allez, une petite pause. Allez, c'est reparti sur notre page nationale, internationale. On va commencer avec les championnats du monde de handball. On va revenir à la semaine dernière où on s'était posé quelques questions, où Laurent nous expliquait que la France ne gagnerait pas ce championnat du monde car elle le reçoit et que généralement les équipes qui reçoivent gagnent pas au final. Alors voilà. Tu t'es renseigné pour étayer un peu ces statistiques que tu n'avais pas et tu arrives pour nous donner
des chiffres. Pour vous dire que la France a une chance sur 6, suivant les statistiques, de gagner son championnat du monde. Donc pour précision, depuis 1954, il y a eu 23 championnats du monde. Il n'y a eu que 4 pays organisateurs qui l'ont gagné à domicile. Donc il y a eu la Suède en 1954.
C'est notre temps, ça compte.
Il y a eu la France en 2001, l'Allemagne en 2007 et l'Espagne au dernier championnat du monde en 2013. Voilà. Donc
on ne gagnera pas.
L'ambiance, mais ça va être compliqué. Donc mardi, c'est le match contre la Suède, ça devrait le faire.
C'est l'adversaire le plus dur maintenant, la Suède, vu que l'Allemagne a été éliminée par le Qatar, une grosse surprise. Énorme surprise, il reste finalement que cette Suède, voire l'Espagne, qui joue pas mal cette année, Patrick.
Non, mais Suède, gros match, grosse équipe, qui s'était inclinée contre le Danemark, vraiment contre le cours du jeu, grâce à un gardien danois exceptionnel. Puisqu'il avait fait 23 arrêts sur l'ensemble du match. Sinon, la Suède aurait battu le Danemark et donc aurait été dans l'autre partie du tableau et n'aurait pas rencontré la France en quart de finale. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si on passe le quart de finale, à mon avis, la demi-finale sera beaucoup plus simple, même si le Qatar a battu l'Allemagne, puisqu'on prendra ou le Qatar ou la Slovénie, qui, à mon avis, sont inférieurs à la Suède. Donc attention, mardi 19h, énorme match contre la Suède.
Belle équipe la Slovénie, je les ai vus jouer là dans la semaine, je me rappelle plus, il faut faire attention quand même la Slovénie.
Et donc en finale après il y a une énorme Croatie-Espagne et puis après donc il y a la Hongrie aussi qui a battu à la surprise générale le Danemark et donc qui va jouer la Norvège qu'on a rencontrée en poule et on a vu quand même que c'était une équipe assez costaud donc là aussi il s'annonce quand même une grosse finale.
Open d'Australie, Tsonga peut-il passer il joue en huitième de finale dans un tableau déserté par Djokovic et Murray. Est-ce qu'il peut voir plus haut ou ça va être compliqué? Tu dis non, Patrick?
Non, moi je ne le vois pas gagner Wawrinka en quart de finale.
D'accord, et en ce moment, mon fils est en train de jouer, Julien, il a un peu de mal.
2-7-1 pour Rafael Nadal, un début de match compliqué pour mon fils, mais là je viens de voir que dans le quatrième set, il y a mon fils qui vient de breaker Nadal.
D'accord.
3-2, donc à suivre.
Ok. À suivre mercredi, réécouter l'émission et vous saurez le résultat. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélien ?
Non, rien du tout.
Tu veux récupérer le micro,
juste. Je suis d'accord avec Patrick. Je pense que Tsonga contre Wawrinka, ça va être très difficile.
Et moi, je mets une pièce sur Tsonga, tiens. On en reparlera la semaine prochaine. Je vais vous sortir des
stats. Il va lui arriver un truc encore, là, une sorte de un truc au mollet, au pied,
au
coude, ou je sais pas,
crise de foie,
aux adducteurs. Qu'est-ce qui lui arrive encore au genou ? Enfin bon. Voilà, il arrive toujours quelque chose, c'est
fragile.
Enfin, moi, je sais pas.
Il aurait besoin d'un coach mental, un peu.
Ah, mais tiens, Gasquet, par exemple, Gasquet. Au début de l'Open d'Australie, tout le monde a dit, ouais, il est fabuleux, il met des tolls à tout le monde, c'est son année, tout le monde a perdu autour de lui, il a un tableau magnifique. Ouais, bon, il y a Dimitrov. Ouais, non, mais Dimitrov, il mène 5-2. Il mène 5-2. Il a battu 5 fois. Il a battu 5-2,
40-0.
Non, mais il a perdu. Confrontation directe. Il met un 5-2 face à Dimitrov, c'est tout. Bon, 3-7-0, vite fait, bien fait. Et hop, égacé comme d'habitude.
Dans l'avion.
Retour à Béziers.
Ouais, Gasquet, hein, pas agacé. C'est pas les mêmes.
Mais Gasquet m'agace, par
contre. Ouais, moi aussi, il m'agace. Allez, ton chouchou, Patrick, NBA, le pivot français de l'Utah Jazz, Rudy Gobert a réalisé un match phénoménal, le meilleur de sa carrière.
25 rebonds.
27 points, 25 rebonds lors de la victoire en prolongation contre Dallas 112-107 dans la nuit de vendredi à samedi. Alors d'ailleurs, les votes du All-Star Game sont terminés. Nous avons les équipes sans grande surprise, à part peut-être une à l'Ouest, mais bon. Reste maintenant les remplaçants qui sont choisis par les coachs. Question, on va commencer par notre spécialiste basket. Aurélien, Rudy Gobert peut-il être choisi?
Oui, il peut être choisi, effectivement, avec la saison énorme qu'il fait.
Attends, mais vous nous parlez que d'un match. On ne peut pas être choisi quand
on a un bon match. Il n'y a pas eu que celui-là.
Il fait des stats à peu près similaires depuis le début de la saison. Donc,
oui, à son 17e double-double, un truc comme ça. Ouais.
Ah ouais, il fait un début de saison énorme. Donc, ça serait une anomalie qu'il ne soit pas choisi par les coachs. Effectivement, le premier tour des votes pour désigner les 5 joueurs majeurs,
c'est le public.
Sont choisis à moitié par le public et par les coachs et les journalistes.
Oui, les journalistes, oui.
Et donc, mais il a pas été pris. Il n'y a pas beaucoup de Français qui ont dû voter pour lui. Mais
combien de pivots remplaçants? Un seul ou deux?
Mais c'est un petit peu le problème, et c'est le problème qui se pose aussi pour.
Parce qu'il y a des gros pivots en face de lui.
Pour le choix des cinq joueurs majeurs, c'est que la catégorie pivot n'est pas représentée dans les votes. C'est-à-dire que les pivots sont mis avec les postes numéro 4. Donc ils ont pas une catégorie à eux à part entière. Donc c'est vrai que ça pose un problème.
Là, c'est qui a été choisi? Il n'y a pas de pivot dans les 5 choisis?
Attends, je vais te le dire parce que je n'ai pas de tête.
C'est Jordan de... DeAndre Jordan de...
non, mais
des Clippers.
C'est vrai qu'on assiste parfois à des choses surprenantes parce qu'il y a Russell Westbrook qui est en train de battre le record absolu du nombre de triple-doubles dans une saison, qui n'est même pas dans le 5 titulaire. C'est vrai que ça paraît complètement hallucinant qu'un tel joueur qui fait une saison quasiment jamais vue, même Jordan n'a jamais réussi à avoir autant de triple-double sur une seule saison, ne soit pas dans le 5 majeur. Donc il peut y avoir parfois des surprises.
Donc je peux vous dire les 5 majeurs si vous voulez. Alors Conférence Ouest, il y a James Harden de Houston, il y a Steph Curry de Golden State, il y a Kevin Durant de Golden State aussi. Il y a Kawhi Leonard de San Antonio et Anthony Davis de Pelicans.
Anthony Davis, c'est voilà. Un pivot. Il n'y a pas de joueur de Portland? Davis.
Attends, j'ai pas entendu.
Pelicans.
Pelicans.
Il n'y a pas de joueur de Portland?
Conférence Est, il y a Kyrie Irving de Cleveland, DeMar DeRozan de Toronto, Jimmy Butler de Chicago, LeBron James de Cleveland et Gianni Antetokounmpo de Milwaukee.
Voilà, il y a juste le joueur de Toronto qui pose un peu question, hein, DeMar DeRozan, qui n'est pas à l'heure actuelle un top player. Et donc, va falloir voir, parce qu'il y a beaucoup de pivots à l'ouest. Hein, donc, on disait Jordan des Clippers. Il y a qui encore qui peut passer devant Gobert en pivot à l'ouest? Ah, c'est tout?
Je ne sais pas trop.
Joachim Noah?
non, Joe à l'est. Il est à l'est.
Bon, enfin, voilà, on va voir. Donc, oui, vous me dites tous oui. Moi, je dis non. Bien que je l'adore, mais bon, c'est comme ça, on vérifiera. Il est 13h28, oh, on va pas avoir le temps de parler des clowns de l'OM. Oh là là, qu'est-ce que c'est triste.
Non, tu as raison.
Par contre, on va pronostiquer Paris Saint-Germain, Monaco. On va le mettre mal. On va commencer par Julien, pour pas qu'il se serve des pronostics d'Aurélien, de Laurent. Alors, sinon, Julien, il dit l'inverse, 0-0, il gagne.
0-0, 1-0, ou 2-1, ou 3-3.
Ouais. Allez, Julien, on commence par toi. Paris Saint-Germain reçoit Monaco.
2-1 pour Paris.
Très bien. Aurélien?
Un partout.
Un partout, on ne prend pas de risque. Ouais. Patrick?
2-1 pour Monaco.
Ouh là là. Allez Antoine, vas-y, passe devant Laurent et Aurélien là, avec un point marqué.
Voilà, moi je dirais 3-2 pour Monaco.
3-2 pour Monaco. Non, c'est à moi Laurent. Moi je dirais un 2-2, ça n'a pas été dit. Tiens. Allez Laurent, casse la baraque.
Et donc je vois bien 1-0 pour le PSG.
Allez, dis-nous le buteur, t'aimes bien.
Le buteur, ben c'est Cavani, bien
oui,
sûr.
Évidemment. Ok, on vérifiera la semaine prochaine. Allez, c'est 13h30. Merci d'être resté à notre écoute. Merci beaucoup, Antoine. Et bonne chance à cette équipe de pré-national. On continue à la suivre. Hein. Faut gagner des matchs maintenant.
Merci et merci à vous de m'avoir suivi.
Ciao les gars, à bientôt.
Bye. Au revoir.
Salut.
Revoir.
Les Street John au couloir numéro 2, allez les Street, c'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant, Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du Tazzi Apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde, au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du Tazzi Apéro.